Oui, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Gérard Wamser pour son invitation et pour l'organisation de ce colloque et vous remercier par avance pour votre présence. Je parlerai donc de pratique médicale, de ma position de psychanalyste qui travaille depuis plus de 15 ans dans un département de cancérologie pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy et qui donc, outre l'aspect utile, est un poste d'observation sur la médecine telle qu'elle se pratique. Les cancers de l'enfant sont assez significatifs, même s'ils sont peu nombreux, de la cancérologie en général, et la cancérologie donne une idée assez juste de l'ensemble des problèmes et des pratiques de la médecine actuelle. Alors, les objectifs, évidemment, par rapport à l'enfant cancéreux, c'est de les guérir dans les meilleures conditions possibles et sans séquelles, le moins de séquelles possible, et aussi de ce que le traitement ne les déstabilise pas, ni eux, ni leur famille, ni pendant le temps du traitement, ni après la fin du traitement. L'intitulé de cette session, Les limites du vivant, m'ont fait penser à la mort, bien sûr, comme limite du vivant, mais aussi à l'expérience limite qu'un enfant peut traverser quand il est soigné pour un cancer. Ce qui pose la question de comment représenter cette expérience. Parce qu'il faut trouver le juste milieu entre une description catastrophique, horrible, et une description banalisante. Ce qui pose des questions d'éthique, c'est-à-dire l'éthique du juste regard sur l'enfant, de la juste relation à l'enfant et de la juste parole sur l'expérience qu'il traverse. Alors, quels sont les grands repères d'un enfant qu'il faut éviter qu'il soit déstabilisé? Parce que c'est à partir de ça que nous pouvons réaliser nos objectifs. Ces repères, c'est le rapport à son corps. Aussi bien le corps utile, celui qui l'utilise, que le corps image, l'image qu'il en a, mais aussi l'image qu'il en a dans le regard des autres sur lui. Et en cancérologie, le corps peut être altéré. Mais c'est aussi l'expérience subjective de son corps qui peut être altérée aussi par la maladie et les traitements. Et donc, dans les situations les plus dures, le sentiment de devenir étranger à son corps ou que son corps lui devient étranger ou que la représentation qu'il en a n'est plus exactement commune à la représentation humaine générale. Et les enfants, dans leurs dessins, peuvent se dessiner sous la forme d'animal, voire de pierre, d'objet, etc. Donc, il faut faire en sorte que le corps ne soit pas déstabilisé. L'autre référence, l'autre repère important, c'est la famille. Faire en sorte que la famille ne soit pas déstabilisée. Et pour un enfant, la famille, c'est non seulement la relation à ses parents, mais aussi à la position de parentalité de ses parents. Mais c'est aussi la relation à sa fratrie, mais aussi la relation aux références religieuses, idéologiques, éthiques de sa famille. Et donc faire en sorte que ces références apparaissent toujours aussi valables pour l'enfant, sinon il a le sentiment d'avoir été trahi, qu'elles ne tiennent pas, mais aussi qu'il en comprenne la fonction et qu'il puisse s'appuyer sur elles pour se confronter au traitement. Mais la relation à la famille, c'est aussi la relation à la structure familiale, au fonctionnement familial et aussi à la famille en tant que succession des générations. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à l'histoire des générations passées de l'enfant. Par exemple, si les parents ont mal traversé ou suffisamment mal traversé leur adolescence, ils ont du mal à assumer leur parentalité dans la situation déstabilisante de la maladie de l'enfant. Si, par exemple, ils sont restés dans un deuil non dépassé d'un frère dans l'enfance ou de leurs propres parents, ils peuvent mal assumer la mort possible de leur enfant et donc ne pas être disponibles à être des interlocuteurs valables pour l'enfant. Le troisième repère important, c'est la place sociale de l'enfant et de sa famille. Et si l'enfant perd son insertion sociale, par exemple, non seulement ne va plus à l'école, mais perd le sentiment de son appartenance à la scolarité et à l'exigence scolaire. Non seulement il perd le sentiment de sa valeur sociale, mais aussi de la confiance que la société et que ses parents peuvent avoir en lui et dans son devenir, c'est-à-dire la confiance dans la guérison et de ce que, ensuite, il ne sera pas marginalisé une fois guéri. Mais c'est aussi la question qu'il se pose de quelle est sa place en tant qu'enfant traité pour cancer dans la société. C'est-à-dire il se confronte au regard de pitié, de sympathie, d'horreur, d'incompréhension ou de mépris de la part des autres qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, qu'il croise dans la rue. L'autre élément important, c'est le sentiment de son identité qui vient à la convergence de tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut intégrer la réalité de son cancer et des traitements et de son statut et des transformations que ça intègre, ça provoque, dans le sentiment de son identité, c'est-à-dire une identité non figée, mais en même temps une identité qui n'est pas cassée et qui introduit un avant de la maladie et un après qui fait qu'il a le sentiment d'être double. Donc ce sont des questions auxquelles nous devons travailler. La question de la mort est une question permanente. C'est-à-dire, même si la majorité, 65% grosso modo, des enfants vont guérir, ça veut dire que 35% ne vont pas guérir, mais aussi qu'à partir du moment où l'enfant pénètre dans cet univers de la cancérologie, la question de la mort est posée. Ce qui nous incite à nous poser la question, qu'est-ce qu'est la mort pour un enfant ? Sinon, on est écrasé par la massivité du terme ou de la réalité de la mort et on ne peut pas aider l'enfant à s'y confronter, ni l'enfant, ni les parents, ni les soignants. Alors, certaines des questions que l'enfant se pose sur la mort, c'est sur la réalité physique de la mort et du mourir. Est-ce que je vais avoir mal, je vais saigner, je vais étouffer, etc. C'est des questions sur la réalité sociale du mourir et de la mort. C'est-à-dire, est-ce que dans le mourir et dans la mort, on continue d'appartenir, d'avoir sa place dans la société, ou est-ce qu'on n'y appartient plus ? Et c'est pour ça que, par exemple, il est important d'éviter que les enfants qui vont mourir soient relégués au fond d'un service, dans une chambre que personne ne va visiter. C'est la question aussi des représentations de la mort. Donc, non seulement les images de la mort et des morts, mais aussi tout l'imaginaire qui fait partie de notre culture. Et il est important que l'enfant puisse constater que son imaginaire et ses références culturelles ne sont pas trop hétérogènes avec celles de la société. Donc, c'est tous les films, toutes les histoires, toutes les légendes, tous les fantasmes sur la mort. Et il est important d'aider l'enfant à les exprimer, parce que sinon, il travaille seul avec et ça devient un imaginaire absolument effrayant. L'autre question importante de la mort, c'est les expériences partielles qu'il peut traverser et qui lui donnent une intuition de ce que peut être la mort. Et si on ne l'aide pas dans ces expériences partielles, la mort apparaît comme quelque chose d'absolument effrayant, effroyable pour lui. L'horreur absolue. Alors, ces expériences partielles, ça peut être, par exemple, la perte de la temporalité. Le temps ne passe plus, ou le temps n'est plus scandé, il n'y a plus de scansion, c'est l'éternité uniforme, monotone. Il n'y a pas plus de différenciation entre le passé, le présent, l'avenir. Il oublie son passé, il ne peut pas se projeter dans l'avenir, et comme il le dit souvent, il peut vivre dans jour après jour, minute après minute, un présent immédiat, en permanence répétitif. Ça peut être aussi la perte de l'appartenance sociale. Il est nulle part. Et il n'y a plus de rapport, plus de place dans la société, la relation aux autres, pour lui. Et donc, c'est déjà l'au-delà de son appartenance sociale. Ça peut être la perte aussi du sentiment de son identité corporelle, c'est-à-dire d'être bien dans son corps, que son corps lui appartient, que son corps ne lui est pas étranger, mais que ce corps reste aussi un corps humain, quelles que soient les déformations réelles ou perçues qu'il peut avoir. C'est aussi la capacité de penser. C'est-à-dire s'il perd la capacité de penser, soit parce qu'il est écrasé par la certitude qu'il va mourir, par exemple, ou ce qu'il a à penser est trop écrasant et donc il n'y arrive plus, ou alors c'est des pensées répétitives. Ou alors que cette capacité de penser devient une capacité purement technique, c'est-à-dire des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me faites, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et il n'y a plus le jeu ludique de la pensée. À ce moment-là, c'est déjà l'intuition de ce que peut être la mort. C'est aussi la perte, ça peut être aussi la perte de la capacité d'imaginer. C'est-à-dire, il n'est plus que dans un rapport réaliste, totalement réaliste, objectif à la réalité. Il n'y a plus aucun fantasme. Et la mort, à ce moment-là, lui apparaît comme le vide, le noir absolu, le trou noir de la pensée. C'est aussi la perte de la temporalité, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans l'avenir, non seulement à imaginer son avenir, mais à avoir un minimum de garantie, jamais absolue, qu'il continuera d'exister dans la vie de ceux qui vont continuer à vivre. C'est-à-dire que non seulement il gardera sa place dans leur pensée, leur mémoire, mais aussi que ceux sur lesquels il peut s'appuyer, et en particulier les parents, ne seront pas pris dans un deuil qui les empêchera de vivre ou ne se suicideront pas à l'extrême. Donc, c'est les questions auxquelles on est confronté. Mais pour donner des éléments un peu plus pratiques et les conséquences que nous devons tirer de ces réflexions, je m'appuierai sur un exemple de clinique assez fréquent, qui est la non-compliance, et c'est-à-dire qui va de la réticence à l'opposition au traitement ou à un élément du traitement, mais qui met en danger le bon déroulement du traitement et ce qui peut mettre en danger la vie de l'enfant. Alors, je vais vous donner quelques éléments qu'on peut trouver dans ces situations, qui peuvent venir soit de l'enfant ou des parents, soit des soignants individuels ou structures soignantes. Ça peut venir de l'enfant ou des soignants parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le discours, ni les pratiques, ni les modes de pensée ou les façons de faire des soignants. Soit parce qu'on leur a mal expliqué, soit parce qu'ils ils filtrent ces informations par leur propre mode de pensée. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre théorie, leur propre savoir, quel qu'il soit, individuel ou qui appartiennent à leur référence culturelle ou à leur groupe, et donc les explications des soignants ne passent pas. Ils peuvent ne pas croire soit à la maladie, donc il n'y a pas de raison de la soigner, ne pas croire aux moyens médicaux qui leur sont proposés, parce qu'ils en ont d'autres, ou ne pas croire à la réussite du traitement, parce qu'ils ont, à tort ou à raison, une vision excessivement pessimiste du devenir de la maladie. Mais ils peuvent être réticents aussi parce que la situation leur est trop difficile, soit parce que ça met en danger l'équilibre familial, parce que, par exemple, le coût de la maladie, même quand il y a une prise en charge de la sécurité sociale, est trop élevé pour eux, c'est-à-dire la garde des enfants, les frais de transport, l'aménagement du logement, la perte du travail s'ils doivent être à côté de l'enfant. Donc, ils font une évaluation consciente ou pas consciente entre les objectifs prévisibles, crédibles du traitement et le prix qu'ils doivent en payer, quel que soit le prix. Ou ils ont peur, par exemple, que s'ils consacrent trop de temps et le temps nécessaire à l'enfant malade, ça se fera au détriment du frère adolescent qui va mal et que le prix à payer sera à terme beaucoup trop cher. Et donc, il y a une logique consciente ou inconsciente de sacrifier l'enfant malade, dans certains cas, pour le bien-être du reste de la famille. Ça peut être aussi parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur dans le cadre du traitement et des contraintes du traitement, d'être à la hauteur des exigences, soit de la médecine, des médecins, soit de l'enfant malade. Ce sont quelques exemples. Du côté des soignants, les causes possibles de la réticence des parents ou de l'enfant au traitement peuvent être la déstabilisation des médecins ou de l'équipe médicale. Cette déstabilisation peut avoir de nombreuses causes. Ça peut être l'écart trop grand de chaque médecin ou du groupe entre ses idéaux et la réalité de ses pratiques. Ça peut être aussi le désarroi par rapport à ce moment particulier de leur spécialité médicale qu'ils sont en train d'exercer. Parce que la médecine n'évolue pas dans un progrès continu et linéaire. Il y a des paliers, il y a des sauts, il y a des reculs. Et en fonction de l'entrée dans la pratique médicale des médecins, ça peut être, ils peuvent avoir plus ou moins confiance dans l'idée d'un progrès. Et donc être déstabilisés ou usés parce qu'ils n'arrivent pas à guérir comme ils le souhaiteraient les enfants. Les autres causes, ça peut être aussi sentiment de contraintes contradictoires qui s'exercent sur eux. Les contraintes entre les exigences qu'ils ont, les exigences du patient ou de ses proches, ou les exigences de la société. Et ces exigences peuvent venir d'attentes ou de visions vraies ou fausses, excessives ou réalistes, par rapport à ce que la médecine aujourd'hui peut proposer. Un autre élément, c'est qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain de confiance, de communication et d'entente suffisante entre les médecins et l'enfant et les parents. Et ça ne vient pas tellement de ce qu'il y a une condescendance ou un mépris de la part des médecins sur ou un pouvoir médical sur les patients, mais que leurs représentations, leurs modes de pensée ne sont pas les mêmes. Et de plus en plus, les médecins, dans leur pratique, ont une vision du malade et de la maladie qui est filtrée ou modelée par les techniques actuelles, c'est-à-dire la génomique, la pharmacocinétique, la chronobiologie, l'imagerie médicale de plus en plus précise, alors que les patients ont une référence qui est une référence au corps global, au fonctionnement global, à l'imaginaire global du corps, etc. Et donc, ce n'est pas toujours facile de repérer et de dépasser les malentendus qui peuvent exister. Je ne vais pas développer ça. Un autre élément, par exemple, c'est aussi la contradiction pour les médecins entre les exigences de la relation individuelle et personnalisée au malade et les exigences, comme ça a été un peu évoqué tout à l'heure, de la médecine collective. Parce qu'aujourd'hui, la médecine, inévitablement, est collective. Il y a des bonnes pratiques, il y a des recommandations, il y a des protocoles qui évitent les improvisations. Mais en même temps, les médecins gardent leur marge de manœuvre individualisée. Donc, c'est aussi déstabilisant et il faut y être attentif. Alors, quelles sont les conséquences de ça ?
Vous avez encore 10 minutes.
Oui, ça va aller vite. Bon, quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer ? Il est important de comprendre la psychopathologie de l'enfant, de sa famille et des soignants. Pour les soignants, ça peut se faire dans le cadre du groupe Balint, d'un certain nombre d'études. Pour les enfants et les parents, c'est le travail des psychanalystes qui travaillent dans ce type de service. Il est important de comprendre aussi le mode de fonctionnement social d'une famille ou d'un groupe social par rapport aux contraintes de la maladie et du traitement. Par exemple, dans telle famille, qui se sent ou quelles sont les contraintes pour dire un tel est responsable du soutien à cet enfant et donc qui doit éventuellement sacrifier ses centres d'intérêt ou ses investissements pour être auprès de cet enfant. Dans certaines familles, c'est la femme, la mère. Dans d'autres, c'est la grande sœur. Dans d'autres, c'est la tante maternelle, par exemple. Dans d'autres, c'est aucun de la famille, mais des substituts sociaux. Et dans d'autres, c'est la société en général qui sont perçus comme devant se sacrifier. Et la famille dit, moi, je ne paye rien pour ça. Il faut que ce soit la société qui prenne ça en charge. Donc, c'est important qu'il y ait des études de sociologie pour comprendre ces mécanismes. C'est important aussi qu'il y ait des études de santé publique pour comprendre quelles sont, à partir de quand, à partir de quelles limites, une famille peut considérer que l'effort pour soigner l'enfant devient excessif par rapport à ce qu'elle peut en attendre. Bon. Ce n'est pas tellement le cas en France, c'est plus le cas dans des pays moins, disons, avec moins d'éléments. Par exemple, où la distance pour aller au centre hospitalier excède les capacités de la famille. Mais il y a une réflexion à faire, non pas uniquement sur les coûts économiques, etc., ou la répartition égalitaire, mais pour telle pathologie, à quel niveau de réponse on doit, quel niveau de réponse doit être apporté pour que le traitement soit supportable, acceptable par les familles concernées. Il peut y avoir des études d'anthropologie médicale pour comprendre le mode de fonctionnement, les façons de faire, le mode d'organisation, le mode de pensée dans un tel service, mais aussi le mode de pensée et les façons de faire par rapport à la maladie d'une famille ou d'un groupe social déterminé. Il peut y avoir aussi des études historiques, bon, sur une période limitée, sur une période proche, donc un peu différente des pratiques habituelles, mais pour comprendre, dans telle pathologie donnée, à quel moment de l'histoire de la spécialité nous nous trouvons. Ça donne des références qui évitent les fausses attentes ou les faux désarrois, ou les désarrois excessifs. Il peut y avoir des études aussi pour comprendre quelles sont les attentes de la société, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, par rapport aux propositions médicales, pour éviter ce qui a été montré tout à l'heure, c'est-à-dire des scoops permanents, c'est-à-dire tous les jours, il y a des scoops, et qui met en désarroi aussi bien les familles que les soignants, parce que les familles, maintenant, de plus en plus informées aussi bien sur ce qui se passe en France qu'à l'étranger, ils ont Internet et ils l'utilisent, et ils disent aux médecins, les promesses que vous nous avez faites, eh bien, vous ne les tenez pas. Donc, vous nous avez trompés, on nous a trompés, etc. Et il y a des conflits qui peuvent être désagréables et dangereux. Donc, c'est un certain type de travail. Il peut y avoir aussi la participation de philosophes, mais tout au long de ce colloque, les philosophes se sont suffisamment exprimés pour voir quelle place ils peuvent trouver. Donc, pour conclure, ce qui, d'un point de vue très concret de la place de praticien, serait souhaitable, c'est qu'il y ait une structure qui actuellement n'existe pas vraiment en France, une structure qui mette en commun ces différentes spécialités qui peuvent être intéressées et avoir des choses à dire et à travailler ensemble comme sciences humaines dans le champ médical, qui soit une structure de confrontation, de recherche, de formation, d'expression, donc de diffusion de ces travaux, et qui permettrait d'éviter, par exemple, entre autres, le type de malentendu que les problèmes de non-compliance peuvent soulever. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. La parole est à la salle.
Vous avez très bien montré le rôle que peut jouer le psychanalyste dans un service de cancérologie. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment ce rôle est perçu, depuis quand il est joué et comment il peut se développer dans l'avenir? Comment c'est accepté par le milieu médical, par exemple, à l'IGR?
Bon, ça dépend, comme vous l'indiquez. Et de la qualité du psychanalyste, de la qualité du service, de l'ancienneté, parce que les choses se font dans la durée. En ce qui concerne le département de pédiatrie de l'Institut Gustave Roussy, le premier psychanalyste, la première, c'était autour de 68. En pédiatrie, les premières psychanalystes, c'était dans les années 50. Donc, il y a... ce qui est important, c'est que le service soit compétent. C'est-à-dire qu'il soit compétent sur sa valeur, il ait le sentiment de sa valeur. Sinon, le psychanalyste joue un rôle négatif, il n'est pas mal perçu. C'est important aussi que le psychanalyste sache ce qu'il fait. C'est-à-dire, ce n'est pas un regard d'expert ou d'éthique, de pseudo-éthicien sur les pratiques médicales ou de jugement, mais il est intégré dans l'équipe médicale. Donc, il a les moyens aussi de cette intégration et de la durée. Ce qui lui permet aussi d'acquérir sa compétence, parce qu'il ne suffit pas d'être psychanalyste pour, comme ça, être compétent. Ça se fait dans un travail collectif, une intégration dans les problèmes de la médecine et des médecins, et la définition aussi de ses propres objectifs. Il faut qu'il montre aussi qu'il est utile, c'est-à-dire pour résoudre un certain nombre des problèmes très concrets auxquels les médecins, les infirmières, la structure hospitalière est confrontée, qui peuvent être des problèmes cliniques, mais aussi des problèmes de réflexion sur leur rapport à leur discipline, leur rapport aux patients, mais leur rapport à leurs propres idéaux. Donc, c'est comme ça que le psychanalyste peut trouver sa place.
Moi, je voudrais poser la question suivante. Il me semble que dans les difficultés d'acceptation de la maladie par la famille, il y a surtout la difficulté d'acceptation du diagnostic. Et je voudrais savoir comment est-ce que cela peut être, comment dirais-je, quelles peuvent être les réponses à des parents qui apprennent que leur enfant est atteint d'une maladie aussi grave que celle-là.
Il n'y a pas de réponse unique, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que veut dire le diagnostic pour une famille. C'est la confrontation à un mot, par exemple le cancer, et donc la référence à l'imaginaire du cancer dans la société. Donc, quel est cet imaginaire dans la société? C'est la référence à des expériences qu'ils ont pu vivre, c'est-à-dire le grand-père, l'oncle qui est mort d'un cancer, dans telles conditions. Bon. C'est la référence aussi, comme je le disais tout à l'heure, aux attentes qu'ils ont des soignants. C'est l'intégration aussi dans un univers qu'a priori ils ne connaissent pas, c'est-à-dire qui est l'univers de la médecine moderne avec tous ses instruments et ses pratiques. Donc, quand on parle de difficultés du diagnostic, c'est par rapport à cet ensemble de choses qu'il faut faire. C'est aussi la référence à la continuité de leur histoire familiale, c'est-à-dire la place, quand il s'agit d'enfants, de cet enfant dans leur histoire, dans leurs désirs, etc. Les théories psychosomatiques, souvent, qu'ils mettent en avant, ce n'est pas par hasard qu'il a le cancer, entre guillemets, mais aussi les intuitions qu'ils ont sur qu'est-ce que ça va introduire comme rupture et comme problème dans le fonctionnement de la famille. Donc, il faut, dans la question du diagnostic, évaluer aussi tous ces éléments. Le médecin doit le faire, l'assistante sociale doit le faire, le psychanalyste doit le faire, etc. Il y a tout cet ensemble.
Il y a une difficulté probable à laquelle vous n'avez pas eu le temps de faire allusion, mais je voudrais quand même vous poser la question. Un enfant de 3 ans et un adolescent, ce n'est pas la même chose. Vous avez sûrement réfléchi à des différences nécessaires d'approche selon l'âge. Bien sûr, le cancer avant 3 ans, c'est heureusement beaucoup, beaucoup moins fréquent. Mais la problématique ne doit quand même pas être la même. Où elle l'est, j'en sais rien. Je voudrais bien avoir votre santé à vie là-dessus.
On peut dire les deux, c'est-à-dire qu'elle est la même et qu'elle ne l'est pas. Elle est la même parce que les repères généraux que j'ai donnés sont valables aussi bien pour les bébés, parce qu'il y en a, que pour les grands adolescents. Les différences, on peut les indiquer. Le sentiment de la mort possible. Chez l'adolescent, c'est plus concret, c'est mieux formulé. Chez le bébé, c'est le sentiment du désarroi dans la relation aux parents et en particulier à la mère. C'est-à-dire, très concrètement, le bébé perçoit que l'ambiance est différente, que les façons de parler sont différentes, et y compris que la mère ne le tient pas de la même façon ou qu'elle est figée dans le rapport à lui par l'écrasement du diagnostic. Donc, il a le sentiment, il ne formule pas ça comme la mort, le bébé, mais qu'il est dans ce vide ou cette perte de la relation et qui, plus tard, pourra, par l'adolescent, être formulé comme c'est une expérience de la mort, une intuition de la mort. Pour l'adolescent, par exemple, l'adolescent, le rapport à la société, c'est le rapport à ses pairs, donc le va-et-vient entre l'univers familial et l'univers extérieur. Mais c'est aussi l'idée de la sexualité. C'est aussi l'idée de qu'est-ce qu'il va devenir après le cancer. C'est-à-dire, alors que le petit bébé, après le cancer, il peut poursuivre son développement dans la famille qui s'est un peu récupérée et donc se développer dans un contexte un peu protégé. Alors que l'adolescent va assez rapidement être intégré dans les contraintes sociales, professionnelles, etc.
Bien, nous allons nous interrompre à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et...